4 prochaines années, quel visage pour l'Amérique et quelle relation avec l'Europe. Nos envoyés spéciaux à Washington, Aline Gonsalves et Jérémy Boisseau sont avec la politologue Tara Varma, française, chercheuse invitée à la Brookings Institution de Washington.
Tara Varma, bonjour.
Bonjour.
Donald Trump s'apprête à reprendre les clés de la Maison Blanche. Quelles vont être ses premières mesures? Il a dit qu'il irait très vite.
Absolument. Il va aller très vite sur la partie politique étrangère d'abord. Il l'a répété à plusieurs reprises pendant la campagne tout au long de l'année 2024. Il veut mettre fin à la guerre en Ukraine, il veut être l'homme de la paix. Il l'a aussi dit sur la guerre à Gaza, en Israël. Il a vraiment menacé le Hamas de représailles à plusieurs reprises si les otages ne sont pas libérés. Mais en fait, aussi très rapidement, et ce que certains dans sa future administration ont déclaré ces jours précédents, c'est qu'il mettrait en place les déportations de masse aussi très, très vite dans les 100 premiers jours de son administration. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont s'en prendre aux migrants illégaux qui sont aux États-Unis et faire une démonstration de force qui doit tous nous inquiéter parce qu'elle va aller vraiment à l'encontre des droits humains les plus fondamentaux.
Alors, certains chercheurs estiment que la politique de Donald Trump, c'est une politique d'extrême droite. Comment les Américains perçoivent leur futur président?
C'est difficile à dire parce que le pays est quand même divisé. Mais les gens ici réfutent vraiment le terme d'extrême droite. Ils considèrent que Donald Trump est maintenant le représentant du Parti républicain, qu'on est dans ce système bipartisan aux États-Unis. Et que oui, il a certaines idées extrêmes, mais il ne le voit pas du tout comme un dictateur, à l'exception de certains démocrates qui, eux, ont vraiment peur de ce qui va se passer. Mais dans l'ensemble, je dirais que le pays ne le perçoit pas comme ça.
Dans ce discours d'investiture, on n'attend pas de discours rassembleur.
Je ne pense pas. Je pense qu'il aura envie de démontrer qu'il a gagné. Ça, c'est vraiment clé pour lui. Et c'est une personne qui est vraiment dans une logique d'adversité, c'est-à-dire qu'il envisage que les gens face à lui comme des adversaires, ce qu'on a beaucoup de mal, nous, Européens, à comprendre, parce que les États-Unis sont notre allié le plus important, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue de sécurité militaire. Et de saisir maintenant qu'on ne pourra probablement plus compter sur eux comme on a compté sur eux ces 75 dernières années, c'est quelque chose qui nous paralyse un peu.
Est-ce qu'il y a des dirigeants européens qui vont quand même pouvoir garder un lien privilégié avec Donald Trump? On pense par exemple à l'italienne Giorgia Meloni, qui pourrait faire office de relais parce qu'elle partage des visions idéologiques.
Oui, je crois qu'il y a cet espoir-là. Alors, Giorgia Meloni, vous l'avez dit, elle représente une partie idéologique de la scène politique européenne et elle est clairement très bien introduite à la fois chez Trump et chez Elon Musk aussi, vraiment le conseiller, j'allais dire de l'ombre, mais vraiment conseiller de lumière presque de Donald Trump, très présent sur les réseaux sociaux. Mais Emmanuel Macron, président de la France, Mark Rutte, ancien premier ministre néerlandais, maintenant secrétaire général de l'OTAN, Andrzej Duda, le président polonais, sont aussi des dirigeants en fait, qui connaissaient Trump lors de son premier mandat et qui espèrent user de cette connaissance personnelle de Trump pour avoir un meilleur accès à lui. On le sait, avec Trump, c'est quand même vraiment la relation personnelle qui compte. Il veut outrepasser en fait les bureaucraties, les systèmes de fonctionnaires, les ministères, les administrations pour parler directement de dirigeant à dirigeant. Et c'est assez fascinant de voir qu'on, d'une certaine manière, nous-mêmes Européens qui prônons le respect de l'état de droit et des règles de droit en permanence, on est en train de s'adapter aussi à ce système Trump qui est plus extorsionniste que transactionnel, je dirais.
Rapport de force, et donc on va à l'excès, on va demander beaucoup plus en espérant en obtenir quelque chose. C'est ça la méthode Trump. On demande 5% du PIB pour l'armement pour les pays de l'OTAN et puis on espère avoir quoi, 3%. C'est comme ça que fonctionne Trump. On va dans l'outrance.
Je pense qu'il attend les 5%. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'utilise à dessein le mot extorsionniste. Il a envie d'imposer sa volonté réellement et face à cette volonté américaine, en fait, on est dans une situation de vulnérabilité extrême du côté européen. Mais ce qu'il veut, c'est obtenir ce qu'il a demandé. Donc il demande 5% pour obtenir 5%, mais c'est presque un racket de protection parce qu'il va nous demander de dépenser plus sans en échange garantir qu'il assurera la sécurité des Européens. Et je pense que là, on est quand même dans une situation où, d'une certaine manière, la seule réponse qui s'offre à nous, c'est nous d'investir bien davantage dans notre sécurité et notre défense. C'est plus facile à dire qu'à faire. Déjà, il faut convaincre les peuples européens. Ça va vouloir dire consacrer des budgets de défense bien plus importants que ceux que l'on a aujourd'hui, dans un contexte fiscal et budgétaire partout en Europe qui est très, très tendu, très contraint. Ça va vouloir dire renoncer à un certain nombre de privilèges qu'on a, nous, en Européens. Les systèmes de sécurité sociale, l'éducation gratuite dans un certain nombre d'endroits, l'accès à l'enseignement supérieur, la santé. Et ça va prendre du temps surtout. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on risque de se retrouver dans une situation où il y a une incertitude sur notre sécurité en européen qui se pose dès demain. Et quand on parle d'investir bien davantage dans notre défense, il s'agit de faire de l'acquisition d'usines, de former les travailleurs, d'avoir les produits finaux qui arrivent bel et bien. Dans le meilleur des cas, on se parle d'un calendrier, d'une échéance à 2 à 5 ans. Et ça, c'est si on est unis, si on est d'accord, si on a les financements pour. Donc on est quand même dans une situation de difficulté extrême, avec évidemment la guerre en Ukraine qui ne faiblit pas, une contre-offensive russe qui s'accentue, et vraiment une volonté de la part de Vladimir Poutine, lui aussi, de remporter la guerre. Donc là aussi, on a des incertitudes. Donald Trump, il a cette vraie fascination pour les régimes autocratiques. Il se sent en fait plus à l'aise de parler à Xi Jinping, le président chinois, à Vladimir Poutine, le président russe. Il a une admiration pour la manière dont il fonctionne, pour ses systèmes de gouvernance. Et on a le sentiment qu'il y a beaucoup plus de connivence et de consensus, d'une certaine manière, pour Trump avec ses deux dirigeants qu'il n'en a avec ses alliés. Donc là aussi, une vraie incertitude pour nous sur cette garantie de sécurité américaine qui nécessite qu'on prenne la charge de notre sécurité.
On a l'impression que Donald Trump, pour ce deuxième mandat, va avoir les coudées franches, qu'il va pouvoir tout lâcher, tout faire. Il s'est très bien entouré, il s'est mieux organisé. Il va aller jusqu'où ?
Jusqu'au bout. Vous l'avez dit, il a les coudées franches, en fait, c'est vrai. Il a ce qu'on appelle en anglais le trifecta. Donc, il a évidemment gagné la présidence. Il a remporté la majorité à la Chambre des représentants. Il a la majorité au Sénat. Il a la majorité à la Cour suprême. Et l'agenda qu'il nous a présenté, économique, nataliste, nationaliste, mais pas que, est un agenda qui est assez effrayant pour les alliés des États-Unis et le reste du monde. Et j'utilise nationaliste. Il est en partie nationaliste, cet agenda, parce qu'il est aussi expansionniste, on l'a vu. Ces menaces d'envahir le Groenland, le Canada, le Panama, elles sont à prendre au sérieux. Un journaliste du New York Times lui a demandé récemment, lors d'une conférence de presse, s'il était prêt à s'engager à ne pas avoir recours ni à la force militaire ni à la force économique pour contraindre ses États et leur gouvernement. Et il s'y est refusé.
Ça, c'est pas de la provocation pour vous. Il faut le prendre au mot.
Je pense qu'il faut le prendre au sérieux parce que justement, il a été un peu poussé dans ses retranchements par ce journaliste. Et la réponse que Trump lui a faite, qui pour moi est vraiment parlante, c'était « Mais en fait, c'est dans l'intérêt de sécurité nationale des États-Unis. » Et mon interprétation de cet intérêt de sécurité, il est qu'il faut envahir ces pays, prendre possession de leurs ressources et d'avoir accès à leur territoire. Et donc on le fera. Et c'était intéressant parce que Trump avait l'air de dire aux journalistes, mais pourtant c'est évident, ce que je suis en train de vous dire, ça me semble étrange que vous ne le compreniez pas. Et c'est là où je pense que cette logique de politique expansionniste et impérialiste, elle est à prendre au sérieux parce qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter. Où va s'arrêter cette logique expansionniste ? Clairement, elle ne s'arrêtera pas aux intérêts des alliés.
Est-ce qu'on sait déjà ce que ce sera l'après-Trump ? Parce que là, on est parti pour 4 ans et ensuite ?
C'est la grande question. Il a évoqué à plusieurs reprises le fait de peut-être changer la Constitution pour ne pas avoir à partir, puisque la Constitution américaine limite les mandats du président à 2. Il a déjà mis à l'intérieur du Parti républicain des personnes clés de sa famille. Il a vraiment réorganisé l'establishment à l'intérieur pour avoir les coudées franches et la mainmise sur les financements du Parti républicain. Quand même un enjeu colossal quand on fait des campagnes américaines avec des sommes dont on a du mal à réaliser l'importance en Europe. Et donc je pense que même s'il décide de partir, il aura envie de mettre à sa place quelqu'un en qui il a confiance, quelqu'un en qui il se reconnaît. Alors la difficulté de Trump, c'est qu'il n'aime pas l'idée d'avoir un héritier, parce que ça signifierait qu'il part. Et il a tendance, il a une vraie logique darwinienne où il veut que les gens autour de lui se battent entre eux, il les regarde se battre jusqu'à ce qu'il y en ait un qui survive. La question qu'on se pose évidemment, c'est la place qu'aura son vice-président J.D. Vance, qui est beaucoup plus jeune. C'est quelqu'un de dur, mais avec qui les alliés ont le sentiment qu'ils pourront peut-être discuter. Et la question, c'est est-ce que Trump lui laisse de la place ou pas.
Un autre qui devrait avoir de la place ou pas auprès de Trump, c'est Elon Musk, on l'a évoqué. Est-ce qu'il y a assez de place pour deux à la Maison-Blanche ? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont deux, finalement.
C'est le grand sujet à la fois d'inquiétude et d'attente de tous les observateurs ici. Parce que c'est vrai que Trump a laissé les coudées franches aussi à Elon Musk jusqu'à maintenant, d'intervenir sur Twitter, de faire de l'interférence auprès de politiques des alliés, je pense au Royaume-Uni, à l'Allemagne évidemment. Il a dit, Musk, qu'il avait envie de changer l'Europe aussi de l'intérieur. Il a fait tout ça tant que Trump n'était pas président. Et donc effectivement, la question va maintenant être de savoir, une fois que Trump est à la Maison-Blanche, qu'il peut faire pour peut-être limiter ce que fait Musk. Je ne crois pas qu'il soit en mesure de limiter quoi que ce soit. Elon Musk est l'homme le plus riche du monde. Il a accès à des réseaux sociaux qui lui donnent vraiment une couverture médiatique sans commune mesure. Il est propriétaire d'un grand nombre d'entreprises américaines maintenant. Et Musk, il a l'intention en plus d'influer sur des politiques clés des États-Unis, et notamment la politique migratoire. Il est en désaccord avec les nativistes journaliste MAGA du type de Steve Bannon, le conseiller occulte de Donald Trump, qui est en faveur de mettre fin à toute la politique de visa et d'arrêter d'accueillir des étrangers aux États-Unis. Musk, qui s'est vraiment mis en opposition à eux en disant que lui, il était venu avec un visa H1B, donc c'est les visas de travail classiques aux États-Unis, qui permettent souvent de donner un accès plus rapide à la carte verte, la carte de résidence et à la nationalité américaine. Steve Bannon, Steve Miller, qui vont conseiller Donald Trump à la Maison-Blanche, disent il ne faut plus qu'on fasse cela, en fait, il ne faut plus qu'il y ait des mélanges de populations, on veut purifier la population américaine. Donc, qui va remporter cette bataille? C'est une grande question, et je pense que Trump, il est d'accord à la fois avec les Steve Bannon, Steve Miller de ce monde et Elon Musk, mais il va les faire se battre entre eux beaucoup. Donc, la personne qui tranchera à la fin, ce sera Trump, mais il est aussi possible qu'Elon Musk décide de se prononcer contre lui à un moment donné.
Elon Musk sera parmi les invités avec d'autres représentants de la Silicon Valley. Et il y aura dans ce parterre d'invités énormément de représentants étrangers de la droite radicale ou nationaliste ou populiste. Qu'est-ce que ça dit de Donald Trump ?
Qu'il a un projet plus idéologique qu'on ne le soupçonnait et que lui aussi a cette volonté de transformer en fait le monde à son image. On a du mal à le croire, du mal à l'accepter en Europe, mais je pense qu'il faut les prendre assez au sérieux. Et ils vont poursuivre Trump et Musk leurs interférences dans la politique européenne. Je pense qu'il faudra qu'on s'en prémunisse autant que faire se peut.
Merci Tara Varma pour cette interview que vous nous avez accordée ce matin.